Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Allons-y avec nos invités installés sur le plateau d'Africa Radio. Et tout au long du mois de mai, nous accueillerons régulièrement les entrepreneurs du Pass Africa pour vous présenter cette solution à business dont l'objectif est d'accompagner des entrepreneurs entre la France et le continent africain afin d'accélérer leur développement. C'est une solution qui a aussi pour ambition d'embarquer tous les acteurs de l'entrepreneuriat, les entreprises, les jeunes, les associations, tous ceux qui veulent créer du lien entre la France et les pays africains. Alors, c'est aussi un parcours unique et prioritaire créé au sein du BPI France à Paris et dans ses directions régionales avec une trentaine de partenaires du territoire, des incubateurs, des financeurs, des associations et aussi des parties prenantes dans le domaine de l'investissement, de l'accompagnement, du financement, de l'assurance, de la garantie et du soutien à l'innovation. Il s'agit donc d'un écosystème qui s'est mobilisé avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique afin d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora. Alors, a été lancé le 14 avril dernier la partie mentorat qui inclut dans le Pass Africa, le mentorat du Pass Africa, en présence notamment de la ministre Elisabeth Moreno, du député Patrice Anato et du coordonnateur du CPA qu'on recevait également il y a quelques semaines, Wilfried Loriano Dorego. Alors allons-y avec les entrepreneurs que nous vous proposons aujourd'hui à travers les aventures entrepreneuriales de Sakina Msa et de Maguette Sen qui nous rejoignent. Alors l'une est mentor, l'autre est mentorée. Alors on va commencer avec vous Sakina puisque vous faites partie aujourd'hui de la première cohorte des entrepreneurs du Pass Africa. Vous êtes entrepreneur social, vous avez développé le concept du tissu social, vous collaborez dans le cadre de vos activités avec des collectivités, des écoles, des centres de quartier ou encore par exemple des maisons d'arrêt. Alors en 2002, vous avez lancé votre propre marque éponyme, donc Sakina Msa, une marque qui mêle les arts plastiques, les tissus de récupération et les coupes tendances. Depuis 2009, votre entreprise est reconnue comme entreprise d'insertion par le ministère du Travail, puisque vous formez au métier de la mode des femmes sans emploi et des travailleuses en réinsertion. Alors d'abord, parlez-nous un petit peu de votre participation à ce programme. Pourquoi avoir intégré le Pass Africa et comment ça s'est déroulé, votre intégration? Bonjour.
Bonjour, ravie, merci beaucoup de votre invitation. D'abord, c'est une chance, un honneur, parce que être retenue dans un programme qui honore le continent où on est né, c'est vraiment une chance, un merveilleux cadeau. Et alors pourquoi? Parce que je fais de la mode. L'Afrique est un continent, est un poumon, moi je trouve, du monde, et qui a une jeunesse extraordinaire et des savoir-faire incroyables. Et moi, en tous les cas, en tant que créatrice de mode, ce qui était fondamental et essentiel était de valoriser ces savoir-faire. D'abord parce qu'ils existent, qu'ils sont tangibles, ouais. Et ensuite par reconnaissance, parce que être africaine, en tout cas pour moi, c'est une chance, quoi. C'est un vrai cadeau.
Alors, vous entreprenez depuis quelques années déjà. Quelles sont vos principales attentes par rapport au programme Pass Africa, Sakina Msa?
Dans un premier temps, c'est un super réseau où on rencontre des entrepreneurs aguerris, d'autres moins. Et donc, on se frotte les uns les autres, on se fait du bien les uns les autres. Donc, ouais. Le réseau, c'est aussi de pouvoir, par exemple, pour ma part, en tous les cas, toucher les entrepreneurs, les ateliers, les métiers dans le territoire africain qui pourraient travailler avec moi. En ce moment, je discute avec Ethical Fashion Initiative qui dépend de l'ONU et avec lesquelles je vais certainement collaborer sur quelques matériaux, etc. Ouais. Et pour moi, le Pass Africa est essentiel là-dessus parce que, par exemple, quand j'ai commencé à parler de ce programme, ils connaissaient déjà dans le pays, ils avaient des contacts sur place. Donc moi qui suis ici à Paris, c'était vraiment essentiel que d'être assurée en fait, et surtout de pouvoir travailler avec les bonnes personnes.
Alors est-ce qu'on peut associer entrepreneuriat et social? Est-ce qu'on peut associer le business et l'humain par rapport en fait à votre activité? Je pense que c'est une question qu'on doit souvent vous poser.
Oh là là, on me la pose beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, et tant mieux, beaucoup de personnes rentrent dans leur modèle économique, l'aspect sociétal, mais moi j'ai été portée et inspirée par des gens comme Mohamed Younous, qui a créé le microcrédit. Donc c'était une banque qui faisait du social, qui faisait des prêts tout petits, donc qui était dans l'innovation. Et du coup, oui, c'est tout à fait possible. Et l'entreprise, l'entrepreneuriat social génère un beau chiffre d'affaires au niveau de l'économie française. Les entreprises d'insertion, l'économie sociale et solidaire, c'est un vrai berceau aujourd'hui au niveau de l'économie. C'est très sérieux.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail votre travail et votre travail alors qu'il mêle les arts plastiques, les de récupération et des coupes tendances. Qu'est-ce que c'est plus précisément?
D'abord, je vous félicite parce que vous avez bien bossé. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je me dis, elle est vraiment douée.
Ah, merci.
Bravo. Et merci. C'est moi qui vous remercie parce que c'est sympa de bien faire les choses. Et bien, écoutez, d'abord, c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai démarré, je traînais quand j'étais gamine avec les élèves des beaux-arts, du théâtre. Alors, je venais de faire une école de mode et j'avais envie de mélanger tout ça. Donc moi, mon modèle économique était le modèle économique de l'intuition, était le modèle économique du cœur, de la sincérité. Donc j'ai un peu mélangé tout ça. Je faisais des installations, je faisais, par exemple, j'ai fait une expo au Petit Palais, ce qui était une installation, mais en même temps, je faisais de la mode. Je sais que ça a déboussolé plein de personnes qui se disaient, mais c'est quoi ce modèle économique? Mais c'est quoi cette histoire? Et moi, je répondais en riant, mais c'est le modèle économique du cœur, vous allez voir, qui va prendre en puissance, l'empowerment, si j'ose dire, du cœur et du féminin, c'est quelque chose d'assez fort.
Et d'où ça vous vient, peut-être que ce sont des valeurs qui vous ont été transmises? Alors vous êtes née aux Comores, quelle éducation avez-vous reçue, Sakinamsa?
Moi je pense que c'est un peu comme Maguette, beaucoup de femmes africaines, enfin en tout cas moi je viens d'une famille très nombreuse, et je crois que c'est des valeurs de générosité, de solidarité, de bienveillance, qui nous sont inculqués parce que bon, on est dans des familles où on n'est pas que 6, on est 12, 20 parce qu'il y a les cousins, il y a tel cousin qui finalement est le petit frère qui a été adopté par un tel.
La famille élastique.
Donc la famille élastique, exactement. Donc je crois que ces valeurs-là viennent vraiment du fond même, de la manière dont on considère, dont on traite la famille, la culture familiale africaine. Et c'est ça que moi j'appelle être une chance d'ailleurs.
Alors, nous accueillons justement celle que vous avez décidé d'accompagner à travers le programme de Mentora, Maguette Sen, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Maguette, on vous reçoit aussi avec beaucoup de plaisir pour raconter aussi votre histoire. Alors déjà, comment vous êtes choisie et le fait d'avoir choisi une personne qui est dans le même secteur d'activité, ça vous a pas fait un peu peur?
Ah ben non, au contraire, parce que c'est que comme ça qu'on peut agir vraiment et être efficace. J'aurais pas pu aider un photographe, par exemple.
Ouais.
Voilà, donc moi, enfin, je tiens juste à signaler que Maguette est une créatrice de mode talentueuse et que c'est pour moi, c'est vraiment un honneur parce que souvent, je dis souvent que c'est la jeunesse qui nous entraîne et on est derrière elle. Voilà, donc moi, je suis derrière toi, Maguette, et merci de m'entraîner.
Et comment vous êtes connue et pourquoi ce choix d'accompagner Maguette dans cette aventure, Sakina?
En fait, nous, on s'est connus grâce au pass, hein, grâce à Tony. Voilà, moi, j'étais ravie de découvrir Maguette et ce qu'elle est en train de faire. Et puis surtout, les valeurs qui sont des valeurs communes.
Qu'est-ce qui vous a parlé dans son histoire?
Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire de la mode éclairée, ce qui est très important pour moi. Pour moi, la fast fashion, c'est l'obscurantisme. On est en France, le pays des Lumières, et donc du coup, il faut faire de la mode éclairée. Et Maguette, elle fait de la mode éclairée, ce qui est assez précieux, ce qui paraît facile aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de mode durable, de mode éclairée, mais c'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Donc bravo à son courage.
Surtout vu son jeune âge. Alors Maguette Sen, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes la fondatrice de la marque Sai Sai, une marque de vêtements et d'accessoires éco-responsables, unisexe et réversible. Alors vous travaillez avec des créateurs, des artisans, notamment au Sénégal, en Tunisie, mais aussi en France. Vous proposez un vestiaire empreint de couleurs et fidèle à vos valeurs solidaires. Alors déjà, dites-nous un petit peu ce que ça suscite chez vous d'être accompagné par Sakinamsa. Vous devez connaître son histoire, en tout cas vous avez dû l'apprendre. Dites-nous un petit peu ce que ça suscite chez vous. Bonjour.
Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Je suis enchantée, honorée.
Rapprochez-vous un tout petit peu du micro.
Oui, pardon. Merci. Je suis enchantée et honorée d'avoir Sakina comme mentor, puisque elle m'a vraiment beaucoup influencée dans mon parcours et dans mon modèle.
Vous la connaissiez avant, donc du coup?
Alors en fait, quand j'ai voulu me lancer dans la mode, j'avais des valeurs justement un peu atypiques, solidaires et éthiques. Donc j'ai commencé à sourcer des créateurs qui pourraient m'inspirer. Et en tant que pionnière, Sakina, ça a été la première vraiment qui m'a inspirée, puisqu'elle avait cette vision d'insertion professionnelle, de mettre en lumière les gens de l'ombre.
Ouais.
Et puis voilà, de valoriser une matière, de raconter une histoire. Donc ça m'a vraiment inspirée et influencée. Puis j'ai vu qu'à, pour la petite anecdote, elle a fait un petit passage à la Biennale du design de Saint-Étienne, qui est ma ville natale.
D'accord.
Et donc à l'époque, quand j'étais en formation création d'entreprise et que j'étais dans cette démarche de recherche de créateurs, je lui avais mis un petit mot parce que j'avais vu un bâtiment très typique de Saint-Étienne qui est dans le centre-ville, en disant « Ah, trop cool, elle est à Saint-Étienne, est-ce que tu es là ?» Elle me dit « Mais je suis déjà partie. » Je me suis dit « Ah, loupé !» Et puis le destin a fait qu'on se retrouve aujourd'hui et j'ai l'honneur d'être suivie et mentorée par un de mes modèles et exemples. Donc je suis très, très, très fière et je remercie infiniment Sakina pour cet accompagnement.
Alors justement, Sakina a beaucoup parlé d'amour, de partage dans sa conception de son entreprise, en tout cas dans l'ADN de son entreprise. Alors toi, tu t'entoures d'un collectif multi-compétences de designers, de créateurs et d'artisans. Je pense que c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure, les relations que tu as réussi à créer avec ces artisans, avec ces artistes, avec ces personnes qui ont beaucoup de talent. En fait, tu nous racontes un petit peu cela?
Complètement. Bah, en fait, je suis un peu une vagabonde, un peu la bougeotte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma marque Saïsaï en hommage à mes grands-mères qui m'appelaient toujours comme ça, petite enfant.
Le bandit en Wolof.
C'est ça, parce que j'étais jamais à la maison. Où est ma petite fille? Elle est déjà repartie. Et donc, du coup, ce projet, il a pris naissance après un tour du monde. Donc, j'ai fait pas mal de vadrouilles dans l'hémisphère sud, un peu en Amérique, un peu en Europe. Et puis, je finis mon périple en Australie. Pour une année. Et là, voilà, besoin de réenracinement, retour en France. Et de toutes ces rencontres, je me dis comment je peux fédérer au sein d'un même projet toutes ces rencontres de gens talentueux. Donc voilà, donc j'essaye de poser les bases de mon projet. Et puis là, je sollicite ce collectif international qui est un peu en France et aussi en Afrique, là où je tire mes origines, et puis j'avais la volonté d'avoir une vision panafricaine, donc je suis allée en dehors de mon pays d'origine pour aller trouver des designers, des modélistes, pour faire levier sur cet aspect technique que j'avais pas, puisque j'étais pas du tout du monde de la mode.
D'accord.
Donc l'idée, c'était en fait, tout devient possible ensemble. Et c'était parti.
Et pourquoi s'être relancée comme ça dans le domaine de la mode?
Alors pour moi, la mode, ça a toujours été une sorte de carapace, en fait. Moi, je suis née à Saint-Étienne, donc dans un environnement plutôt blanc, on va dire, puisque j'ai fait toute ma scolarité sans modèle de représentation de la diaspora, à part ma famille, ma maman et mon papa et mes frères. J'avais pas ce modèle de représentation. L'idée, c'était d'aller trouver des leviers à l'extérieur, de manière un peu atypique et éthique.
Alors, qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement, de ce programme de mentorat? Quelles sont vos attentes, en fait? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous et qu'est-ce que vous avez envie de développer dans votre entreprise?
La première difficulté, on va dire, c'est d'avoir les aspects techniques, d'avoir un retour d'expérience entreprendre dans un domaine que l'on maîtrise pas, c'est pas évident.
Ouais.
En sachant que avec Saïsaï, on a à cœur vraiment d'être au cœur de la chaîne de production, vraiment de la matière première jusqu'au consommateur, en passant par les créateurs. Donc l'objectif, vraiment, c'est d'avoir cette notion de temporalité, parce qu'on est dans la slow fashion, donc ça nécessite de penser les choses différemment. et de pouvoir pérenniser son modèle. Et Sakina est une pionnière puisque ça fait 20 ans qu'elle œuvre dans ce domaine. Et actuellement, bah, son modèle économique est existant, pérenne et
asseoir en fait l'entreprise, en fait, la pérenniser.
Complètement pérennisé dans le temps, en ayant le juste équilibre économique et aussi social.
Oui.
Voilà, c'est l'enjeu. Et donc, je pense que Sakina sera une excellente référente pour m'aider à atteindre cet objectif.
Alors, vos réactions, Sakina?
Ah ben, je ferai vraiment de mon mieux.
Alors, c'est un programme d'accompagnement qui dure entre 6 et 12 mois, si j'ai bien compris. Est-ce que ce sera suffisant pour lui apporter ce qu'elle attend, en fait, pour avancer?
Moi, je pense, pour avoir échangé un petit peu avec elle, qu'elle est très douée, c'est une espèce d'éponge en capillarité, et du coup, je suis sûre que en quelques mois, elle va voler de ses propres ailes et elle va faire plein de belles choses.
Alors,
aucune inquiétude.
L'occasion de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent en fait que cette première cohorte de 20 labellisés a été sélectionnée lors de la dernière étape du Tour de France de l'entrepreneuriat des diasporas qui avait été organisée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique le 5 février dernier, et que des appels à candidature seront lancés, je dirais ça plus précisément, cette année, dans le prochain en 2021, donc cette année à l'occasion du sommet Afrique-France de Montpellier. Donc ceux qui sont intéressés, les entrepreneurs, n'hésitez pas à aller sur le site donc Passe Africa pour savoir si vous pouvez y prétendre, ou en tout cas essayer de vous y inscrire, parce qu'en fait ça vaut quand même le coup, hein, Sakina et Maguette. Que vous avez envie de dire justement à ces entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui?
Moi je dirais vraiment foncez, allez-y. Et puis, je vais juste redonner à l'Afrique, parce qu'on parle beaucoup de mode durable, de upcycling. Moi, je veux vraiment rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Je pense que c'est le pays qui a aussi inventé le upcycling, parce que c'est un pays où on récupère, on retravaille, on réorganise. Et je pense que c'est eux qui l'ont inventé. Si on doit donner un brevet, il faut le donner au continent africain. Ouais. Et moi, je suis très fière, en tous les cas, de faire partie, d'avoir été en tout cas inspirée par ce continent, sur des actions comme, par exemple, de dire on fait des vêtements, on ne les lance pas en faisant trop de stock, mais on fait de la précommande. Ce que je réalise aujourd'hui dans ma propre marque et dans mon site internet. Donc, de permettre aux gens de venir soit avec des tissus upcyclés, avec des produits qui existent et qui ne vont pas aller dans les poubelles. Et je pense que l'Afrique est vraiment pionnière là-dedans. Donc, un grand hommage à ce continent.
Maguette, ça, je vais vous laisser également conclure. Vous avez envie de dire pour terminer?
Oui, je vais rebondir sur la remarque de Sakina, parce que ça a été même le point, l'élément déclencheur du lancement de mon projet, puisqu'effectivement, j'ai beaucoup voyagé dans l'hémisphère sud, et puis je me rendais compte que ce qu'on appelait la débrouille dans l'hémisphère sud, on appelait ça du design dans l'hémisphère nord, et je me suis dit, il va falloir rendre ces lettres de noblesse à l'art et l'artisanat africain. Et pour la petite anecdote, voilà, je passe en Australie devant une boutique de déco et je vois des nattes tissées en plastique recyclé comme on a beaucoup chez nous.
Ouais.
Et je vois qu'elles valent $230. Et là, je suis outrée. Je me dis, mais comment c'est possible? Nous, partout, il y en a dans toutes les maisons en Afrique. Et puis, je me suis rendu compte que celui qui vendait, c'était celui qui gagnait de l'argent et pas celui qui produisait. Et donc, j'avais à cœur de faire ce rééquilibrage nord-sud, mais aussi économique, en rendant vraiment l'argent aux personnes qui travaillent et qui rendent cet art visible.
En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir à toutes les deux. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Cette longue vie à vos entreprises. Et on rappelle aux auditeurs, pour en savoir un petit peu plus, ça se passe sur Internet, Passe Africa. La suite, avant d'accueillir notre prochaine invitée dans un instant, nous accueillerons Aïssatou Baldé, elle est la dirigeante de Nawari, c'est la première plateforme de freelance africain qu'elle a lancée en 2020. On se retrouve avec elle tout à l'heure, ce sera juste après l'info, nous prendrons la direction de Dakar pour retrouver nos collègues de BBC Afrique. On a également Ange Graille, la part de l'ange, deuxième épisode du Conte de la Semaine, à tout de suite.